De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, alors on vous le dit tout de suite, on a fait l'impasse hein, sur les Césars, on ne vous dira rien sur les gagnants et les perdants. Et pendant 30 minutes, eh bien, nous allons rester concentrés sur l'actualité cinématographique avec quelques voyages de la banlieue à la Chine, en passant par un camp palestinien menu.
Oui, pour un premier long métrage d'animation, Wardi, de Matt Grand. Et puis je vous parlerai aussi d'un film français, Celle que vous croyez, de Safi Nebbou avec Juliette Binoche.
Et puis on a beaucoup de chance aujourd'hui puisqu'on a deux interviews, celle du réalisateur chinois Ya Xiangke pour Les Éternels qui était en compétition à Cannes, et puis celle de Mohamed Hamidi pour un film qui se déroule en banlieue. Jusqu'ici, tout va bien, mais on débute avec un film d'animation qui nous met dans un camp palestinien.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
L'exode provoqué par la guerre obligea la population palestinienne à se réfugier dans les pays limitrophes. Le Liban, la Syrie, l'Égypte et la Jordanie. Mais également plus loin à l'étranger, en Europe, en Amérique et au Canada. Ces camps, ils ne les ont jamais quittés depuis.
Pas très fun comme ça,
non.
Pour un dessin animé destiné quand même à un jeune public. Alors c'est l'histoire de Wardi, hein, qui est une jeune palestinienne de 11 ans, hein, qui vit avec sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née au Liban. Alors Sidi, son arrière-grand-père, fut l'un des premiers occupants après avoir été chassé de son village en 1948. Alors en fin de vie, refusant donc le dernier traitement proposé parce qu'il est malade, il confie à Wardi la clé de son ancienne maison en Galilée, sachant qu'il n'y retournera jamais. Alors ce point de départ est un peu le prétexte pour évoquer, à travers la mémoire vive d'un vieil homme et puis de sa famille, quatre générations de réfugiés palestiniens dans les camps, bah, dont la dernière, la jeune héroïne, hein, qui doit continuer à vivre comme ça en fait. Hein. Wardi est un long métrage d'animation sur la mémoire, sur une part de l'histoire très complexe et polémique, alors relatée avec un sens du lyrisme discret, mais aussi une absence d'explication qui pourrait rebuter, en l'occurrence, le jeune public un peu au fait des événements comptés. On va dire que le poids du passé est un peu au cœur du film.
Pourquoi tout à l'heure tu as dit qu'on n'est rien quand on ne connaît pas son passé?
On n'a rien à apprendre du passé. On est toujours enfermé ici, dans cette cage. La seule chose qui est changée, c'est les tours. Elle grimpe toujours plus haut. À chaque nouvelle génération, un nouvel étage. On vous laisse rapprocher de Dieu. Mais pas comme ça.
Alors le Norvégien Matt Grand, et oui c'est réalisé par un Norvégien. Alors il mûrit ce projet depuis 10 ans, hein, il n'a pas choisi vraiment la facilité. Le sujet abordé est ardu, hein, même si la narration est suffisamment limpide pour se laisser emporter par cette belle histoire. Cette fluidité tient avant tout à la forme qui entrecroise le stop motion, animation avec des marionnettes, et puis une animation 2D traditionnelle. Alors, les marionnettes, elles sont incarnées au présent, tandis que le dessin animé, on va dire à l'ancienne, concerne les sauts dans le temps. Cette combinaison de techniques animées révèle la part la plus audacieuse de ce courageux pamphlet politique. Alors on pense évidemment, et là ça dessert quand même le film, à Valse avec Bachir. Les enjeux sont certes de moindre importance, mais ce récit initiatique n'est pas sans charme, même si en dépit de toute la sincérité du projet, un problème de taille empêche l'adhésion. Hein. Wardi ne se destine à mon avis à aucun public. Trop édifiant pour les adultes et trop ardu pour les enfants. À travers cette suite de témoignages recueillis par Wardi, Matt Grand démontre l'absurdité du conflit israélo-palestinien à travers l'horreur de ces camps qui ont finalement détruit des familles. Alors un sujet très lourd qui, à mon avis, risque de poser quand même quelques petits problèmes au jeune public auquel le film est quand même destiné. Hein.
En tout cas, il est présent dans quelques salles en France, évidemment, c'est une petite distribution, mais il va quand même parcourir pas mal de salles art et essai.
Alors,
notamment.
Un des intérêts aussi du film, c'est qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de manichéisme. Il ne pointe pas
les bons, les méchants.
Doigts, oui. Les bons, ouais. Les méchants. On va dire que les Israéliens sont invisibles dans le film. Hein. Il n'y a pas.
Oui. Il rappelle juste l'histoire,
voilà.
De l'exode de Kharkiv.
C'est pas un film polémique.
Oui. On va maintenant écouter la première interview de cette émission, celle du réalisateur chinois Ya Xiangke.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Évidemment, il y a Zhang Yimou et Wang Bing, mais le chouchou des festivals parmi les réalisateurs chinois, eh bien, c'est quand même Ya Zhangjie. Si ces films ont d'abord eu la particularité de déplaire au pouvoir, ils sont maintenant acceptés, d'autant plus que le réalisateur est aussi entré en politique. Hein. Il est devenu député. Ya Zhangjie décroche régulièrement son ticket pour Cannes, où, contrairement à certaines années, eh bien, en 2018, il n'a rien gagné. Il présentait une œuvre noire teintée de mélodrame, Les Éternels, dont le sous-titre est La blancheur de la cendre est la plus pure. De quoi guider le spectateur dans son interprétation. Alors nous sommes à Datong, qu'on ne connaît pas forcément, hein. C'est une de ces innombrables petites villes de plus de 3 millions d'habitants au sud-ouest de Pékin. Et nous voilà de retour en arrière car le réalisateur a décidé de plonger alors d'abord ses personnages à l'aube des années 2000. Un flashback indolore qui nous met aux côtés de Bin, le chef d'une petite bande mafieuse, et de sa fiancée Kiao. On y voit Bin confronté à la montée en puissance d'une pègre où le code d'honneur semble avoir foutu le camp à son grand désespoir. Le voilà, eh bien, qui aurait pu perdre la vie si sa compagne Kiao n'avait dégainé une arme. C'est le premier temps du film. Alors cet amour indéfectible qui unit les deux personnages confrontés à la violence d'un pays en mutation, eh bien, le cinéma étant l'art de l'ellipse, disent certains réalisateurs, Ya Zhangjie, lui, ne prend aucune pincette et nous fait grâce des années d'emprisonnement de Kiao, ce qui nous renvoie au deuxième temps du film, les retrouvailles contrariées. Alors non seulement le pays a changé à sa sortie de prison, mais son compagnon qui n'est jamais venu la voir, eh bien, n'est plus le même. Le voilà entrepreneur, quittant cette période d'un capitalisme au visage agressif, le réalisateur nous convie à une dernière partie pour clore son récit, celle où l'homme, piteux, diminué, amer, sans le sou, retourne vers sa belle qui, elle, eh bien, a eu le temps de revenir à son premier business du temps de leurs amours. Alors plutôt que de repousser l'homme qui l'a pour ainsi dire renié, sans s'abandonner, Kiao va ouvrir ses bras. Alors on comprendra au détour de leur relation pourquoi il est revenu, à défaut de comprendre pourquoi eh bien, il a ignoré celle qu'il aimait. Trois périodes pour un film noir qui voit s'entrecroiser alors plusieurs formes de récits. Voilà le menu proposé par Ya Zhangjie. Entre mélodrame tout en retenue et comédie noire, le réalisateur chinois laisse de la place à ses personnages et introduit dans son récit des éléments qui permettaient de révéler d'autres histoires que celle de ce couple qui s'est déchiré. Mais il s'accroche à ce duo, non sans faire quelques détours, mais bon, il y a une large place quand même qui est faite eh bien, au personnage féminin de Kiao. Comme toujours dans les films de Ya Zhangjie, le pays se transforme en laissant eh bien, ses perdants se débrouiller entre eux. Ici, le capitalisme avance avec un visage plus radical que celui de la pègre. Le personnage masculin eh bien, s'en tire moins bien que le personnage féminin, comme s'il avait moins à faire avec la Chine actuelle. Pour autant, même en rendant justice à son personnage féminin qui finit par montrer sa force, eh bien, Ya Zhangjie ne fait pas un film féministe. Hein. Alors, trois parties valent bien 2h15 qui passent assez vite. Pour les inconditionnels du réalisateur, il y en a. Hein, on a là un film plus éclatant et tourmenté que le précédent, marqué par le mélo au-delà des montagnes. Ça tient au genre du film noir, un genre venu de Hong Kong qui a connu son heure de gloire en Chine dans les années 80. Côté formel, la caméra est fluide, la lumière est contrastée. Alors soit on a des séquences sombres, soit des moments où la clarté apparaît et le rythme eh bien, reste soutenu. Et on attend évidemment le dénouement de cette intrigue qui voit un amour sacrifié. On va maintenant, écoutez le réalisateur chinois Ya Zhangjie, alors qu'il était à Cannes, il nous explique pourquoi un personnage féminin et pourquoi eh bien, sa compagne.
Le portrait d'une femme est venu du fait qu'il y a 3 ans, quand je me suis mis un peu à me replonger dans toutes les rushes que j'avais accumulées depuis longtemps. Il se trouve qu'en 2001, c'était la première fois que j'avais une petite caméra DV et que je commençais à l'utiliser pour un oui ou pour un non, que ce soit pour des images documentaires ou pour faire déjà des essais de fiction. Et ce qui m'est apparu, c'était que un point commun sur de 2001 jusqu'à maintenant, c'était que je voyais Zhao Tao comme actrice. Et sur une dizaine d'années, ce qui m'est apparu et qui était très intéressant, c'était l'évolution, les transformations de cette femme. Et ça m'a vraiment tout de suite donné le... Enfin, je me suis dit, c'est, il faut faire le portrait de cette femme donc, qui a vécu sur une période qui va de 2001 à 2018 avec toutes ces transformations. Bien sûr, aussi, il y avait mon évolution personnelle sur laquelle je réfléchissais. Et finalement, le fait que j'associe à cette réflexion mon parcours à moi a donné le fait qu'il y a le personnage de Liao Fan dans le film. Et Et ces 10 ans de l'histoire de cette Chine sont caractérisés par des transformations fulgurantes et radicales. Et à la fois, il y a des choses nouvelles qui arrivent, qui, et aussi beaucoup de destruction. Donc cette concomitance des deux, à la fois de la destruction et de l'apparition de choses nouvelles, s'exprime aussi, est aussi vrai au niveau des sentiments des individus. Et finalement, que ce soit sur le plan de la société, sur le plan individuel, ce n'est pas si simple, c'est beaucoup de choses de souffrance aussi.
Par rapport à cette orientation, au début, ils étaient très jeunes, c'était un premier amour.
Mais
les premières amours, elle s'est beaucoup sacrifiée. Et puis, après, elles seront donc aux Trois Gorges et elles le recherchent, elles veulent le retrouver et ils se séparent. Mais quelque part, elle veut tourner la page. Elle veut chercher une nouvelle histoire d'amour. Puis à la fin, elle s'est dit, je préfère rester seule. Voilà pourquoi elle est retournée dans sa ville natale. Vers la fin, M. Bing retourne également dans cette ville natale. Et à un moment donné, dans le film, il dit que même s'il n'y a plus d'amour, il y a tous ces principes inhérents à la pègre, il y a cette notion de s'occuper encore de la famille, et c'est un principe très important. Il n'y a plus cet amour romantique, donc vers la fin, il s'agit surtout d'un sentiment de responsabilité qu'elle éprouve en tant que personnage.
何か刺さるのかな? Alors, c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup à Cannes. Hein. Il y a plusieurs traducteurs en même temps, donc ça déstabilise, mais c'était bien. Il y a Zhangke, le réalisateur chinois que nous écoutions pour Les Éternels en compétition à Cannes 2018. On change de pays maintenant, on passe à un film français qui est en salle également depuis le 27 février, c'est Celle que vous croyez. Et dans ce film, eh bien, il y a François Civil, le comédien qu'on retrouve déjà dans un sous-marin pour Le Chant du Loup, actuellement dans les salles.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Vous êtes sur les réseaux sociaux, docteur ? Pour des gens comme moi, c'est à la fois le naufrage et le radeau. On surnage sur le virtuel.
Alors, je tiens à signaler que François Civil apparaît quand même très furtivement, je le dis pour les admiratrices notamment de l'acteur.
Qui commence, il y en a de plus en plus.
Alors, depuis quelques années, Juliette Binoche l'enchaîne avec plus ou moins de discernement, je dirais, les rôles de cinquantenaire névrosée, étouffée dans une spirale existentielle, la projetant au bord du précipice. Alors, dans ses compositions, ayant, je dirais, pour modèle, on va dire idéal comme ça, Gina Roland dans Une femme sous influence, le talent de l'actrice est incontestable, se transforme en un one-man show étourdissant, un numéro de haute voltige proche de l'expressionnisme. La performance à laquelle elle se livre a de quoi fasciner. Sauf que, revers de la médaille, au-delà bien sûr de l'appréciation personnelle que l'on peut avoir de ce type d'exercice, on ne voit qu'elle à l'écran, Juliette Binoche, et non un personnage, de Sils Maria à Un beau soleil intérieur, en passant par Telle mère, telle fille. Alors quand elle sort de ce créneau, c'est pour aller s'encanailler simplement dans des grosses machineries du type Godzilla ou Ghost in the Shell. Alors équivalent féminin, je dirais, d'un Mathieu Amalric, autre grand névrosé du cinéma français, elle incarne dans Celle que vous croyez, Claire, une romancière divorcée qui a une liaison avec un jeune homme de 20 ans de moins, Ludo. La peur de vieillir, d'être rejetée, se lit sur son visage inquiet. Encore une fois, Binoche fait du Binoche, mais elle parvient à faire exister son personnage, mettant un peu en sourdine ses envolées verbales et ses mimiques agaçantes. Cette femme mûre, pour épier son amant, plus par angoisse que par jalousie, elle se crée un faux profil sur Facebook, celui de Clara, une jeune femme magnifique de 24 ans, inspirée d'une de ses cousines vivant à l'étranger. Alex, un ami de Ludo, tombe sous le charme de cette beauté chimérique. Clara joue le jeu et finit par tomber amoureuse d'Alex derrière son avatar, s'engouffrant dans une sorte, on va dire, de spirale de mensonges au point de perdre complètement pied, de confondre le réel avec le virtuel.
C'est Clara.
Ouais, t'as une voix très jeune.
Et ça vous faisait rien de savoir qu'Alex avait dans la tête
Une autre femme?
Je faisais pas semblant d'avoir 24 ans. J'avais 24 ans.
Je crois qu'il nous arrive quelque chose.
Je me laissais aller jusqu'à me sentir plus Clara que Claire.
Ça me rend fou. Clara, j'ai besoin de te voir.
Qu'est-ce que vous cherchez? Il veut une autre vie?
Non, pas une autre vie, la mienne. Enfin.
Je peux pas continuer à vous aider si vous ne dites pas la vérité.
Alors, celle que vous croyez est l'adaptation, alors j'irais presque littérale, d'un beau roman de Camille Laurence, à la croisée de, on va dire, de Laclos et de Pirandello, un vertigineux récit sur la passion déraisonnée à l'heure de l'explosion des réseaux sociaux. Alors, cette transposition à l'écran, elle arrive peut-être avec un peu de retard pour surprendre réellement, mais tout comme le livre finalement, hein, je crois qu'il était beaucoup plus ancien, il date de 2016. Il y a un côté comme ça où...
Oui,
ça...
Facebook était déjà arrivé.
Oui, c'est un peu bizarre, il y a quelque chose d'un peu daté, certainement volontairement. Hein. Alors, la petite réflexion prétexte, on va dire, concernant les dangers des réseaux sociaux, s'avère quand même convenu, sans réelle portée hein, sociale ou politique. On sait très bien qu'aujourd'hui, nombre de gens s'inventent des faux profils, parfois par escroquerie pure, mais aussi pour se raccrocher à une seconde vie, pour sortir de son quotidien. Alors, que ne ferait-on pas pour devenir quelqu'un d'autre, de plus jeune, de plus beau? Argument de base de bon nombre, finalement, de films de science-fiction. Hein. Mais l'intérêt de cette romance impossible est ailleurs, qui ne cherche pas à embraser une pseudo-modernité à l'image du récent horripilant Double vie d'Olivia Saya, dans lequel d'ailleurs jouait aussi Juliette Binoche. Alors dans ce drame de la folie ordinaire, hein, qui flirte parfois avec le thriller psychologique, s'affine bout, après des films quand même très remarqués, comme Un homme et Dans les forêts de Sibérie, lit finalement une version Frenchie de la série Black Mirror. Il décrit minutieusement le lent processus d'autodestruction entamé par une femme qui commence par jouer avec le feu avant de sombrer dans une dépression. Alors il tend un miroir glaçant et assez anxiogène de notre société à travers le portrait de cette femme en perdition qui plonge dans un amour totalement fictif. La beauté froide d'une mise en scène stylisée, à défaut d'être inventive, privilégiant les clairs-obscurs, les cadrages très léchés et les lents travelling s'accordent avec cette histoire romanesque à la fois intemporelle et puis quand même ancrée dans l'air du temps, dépit de son côté déjà vu. C'est une jolie réussite, hein, tant d'un point de vue de son écriture incisive, bon je pense que le roman était très très bon déjà à la base, hein, ainsi que de sa forme séduisante et cohérente. Alors la sobriété plastique s'avère très payante, et même pour l'actrice, hein, qui filmait avec une distanciation qui est bienvenue, ce qui n'ôte pas en fait une émotion qui est plus intérieure qu'on va dire explosive.
Encore un film qui est dans les salles depuis le 27 février, c'est Jusqu'ici tout va bien de Mohamed Hamidi. C'est la deuxième interview de cette émission.
C'est un état d'esprit.
Cinérama.
What else?
Chronique. Invité et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Alors il arrive parfois qu'en regardant une bande-annonce, on se dise qu'on n'a pas très envie de voir ce film. C'est peut-être le rythme, les gags quand il s'agit de comédie, les acteurs ou le thème qui transpire. On estime qu'il vaudrait mieux faire l'impasse. Combien de fois, Manu, on t'a demandé d'aller regarder un film qui ne t'intéressait pas a priori. Et pour quel résultat? Souvent une cinglante confirmation qu'il aurait mieux valu s'abstenir. Alors je me posais beaucoup de questions, moi, sur Jusqu'ici tout va bien, film de Mohamed Hamidi. Alors déjà, je ne connaissais pas le réalisateur qui en a étonné plus d'un avec La Vache, créant la surprise en 2016, en dépassant le million d'entrée, ce genre de film fédérateur qui passe aussi bien dans les multiplex que dans les petites salles. Mais voilà, bon, j'avais pas vu ce film. Et puis, il y avait les acteurs. Gilles Lelouch, bon, ça va, d'accord. Mais Malik Bentala, l'humoriste qui ne semblait pas convaincant du tout devant la caméra. Les deux comédiens forment un tandem pour un film qui se déroule en banlieue. Bon, voilà, finalement, j'y suis allé, d'autant qu'on proposait de rencontrer le réalisateur. Alors, film de banlieue, oui, le récit de Jusqu'ici, tout va bien se déroule à La Courneuve. Et pour échapper aux foudres du fisc, Fred Bartel, patron de l'agence de communication parisienne Happy Few, donc interprété par Gilles Lelouch, doit s'installer dans la ville de Seine-Saint-Denis, où il a effectivement domicilié son entreprise pour être exonéré de taxes, le fameux dispositif des zones franches. Alors, le fisc veut bien fermer les yeux sur l'ardoise s'il transfère effectivement son entreprise en banlieue parisienne, tout en respectant les règles. Et les règles, eh bien, c'est embaucher au moins 4 employés du quartier. Et c'est sur ce scénario qui se fait rencontrer donc deux mondes que repose Jusqu'ici tout va bien, dont le titre est déjà un clin d'œil à La Haine, film sur les banlieues qui a marqué toute une génération. Alors, sauf que le propos est bien différent, c'est au travers de la comédie que Mohamed Hamidi nous convie à une exploration de la banlieue avec une bienveillance vraiment flagrante. C'est-à-dire qu'il a beau construire son scénario sur une opposition, soit des Parisiens qui s'installent en banlieue, cette dernière n'est pas pour autant exotique ni explosive. Les employés d'Happy Few s'adaptent très bien à leur environnement et les employés du quartier s'intègrent parfaitement au monde du travail. Mais bien sûr, il y a quand même quelques grains de sable. Alors, on voit à l'œuvre une confrontation de deux mondes, Paris-banlieue, l'univers du travail, le lien qui peut unir des êtres dont les vies sont radicalement différentes. Et au passage, le réalisateur taille dans les préjugés. Et puis apparaît aussi une histoire d'amour entre le personnage joué par Malik Bentala et une jeune parisienne de l'agence. Et de plus, alors, cette expérience va amener le chef d'entreprise, donc Gilles Lellouche, à reconsidérer sa vie, le rapport qu'il a avec son fils et son ex-femme. Alors c'est un peu trop gros, mais le réalisateur assume ce feel-good movie. Lui qui a vécu toute sa vie à Bondy, ne dresse pas un portrait idyllique de la banlieue. Il parvient au contraire à nuancer son propos. Alors on voit des dealers, des petites frappes évidemment, mais également des citoyens qui demandent bien qu'une chose, hein, une chance de montrer de quoi ils sont capables. La bienveillance est le moteur de cette douce comédie dont un seul personnage ne sera jamais sauvé. C'est là aussi la justesse du propos de Mohamed Hamidi. Et on écoute le réalisateur.
Le titre « Jusqu'ici tout va bien », d'ailleurs, c'est un double sens. D'abord, le premier sens, c'est « tant que je gagne, je joue ». Tant que ça passe, j'essaye. Et puis après, bien sûr, il y a une référence en seconde lecture à la haine, puisque c'était l'une des histoires que racontait le personnage de Vincent Cassel dans la haine. Quoi.
Vous devez à l'administration fiscale 1 750 000 euros.
Faut que je les paye. On déménage.
Moi, je te suis au bout du monde.
La Courneuve.
Ah oui, quand même.
On a trouvé ça plus intéressant d'avoir un personnage qui ne soit pas dans la caricature, justement, du Parisien du 16e arrondissement avec un pull sur les épaules et qui ait peur dès qu'il voit un type avec une casquette, quoi. Ce qui est intéressant avec Gilles Lellouche, c'est que c'est un mec qu'on impose. On sait bien qu'il n'a pas peur, mais malgré tout, on a beau ne pas avoir peur, il est un peu interloqué par certains trucs quand il arrive à la Courneuve. Mais c'est vrai que du coup, ça donne un peu plus de nuances. On a juste un chef d'entreprise qui veut réussir, qui veut sauver sa boîte et qui du coup se débrouille quoi, et vit les événements les uns derrière les autres et essaye d'utiliser le milieu dans lequel il est. Il est assez opportuniste en fait, mais dans le bon sens du terme. Il se dit comment je vais pouvoir utiliser cette situation pour faire vivre ma boîte et même la pousser encore plus loin. Quoi.
Oh, 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 tu dors.
Vous êtes quoi là?
Je sais pas, il me fait peur lui aussi là.
Vous êtes maître chien, vous avez peur des chiens.
Malik, c'est un peu l'opposé de Gilles dans le sens où Gilles a confiance en lui, il est sûr de lui, il est plutôt imposant, il est charismatique. Et Malik, c'est plutôt un jeune homme, donc Samy dans le film, un jeune homme timide, maladroit, un peu peureux, pas sûr de lui, qui est un peu dans une spirale d'échec, qui est maître chien alors qu'il aimerait bien faire autre chose, mais qui subit un peu ça et qui voit justement ce type comme une opportunité incroyable de s'en sortir. Moi, j'ai vu souvent ça. J'ai vu souvent ça, des jeunes qui, notamment, je me rappelle au moment du Bondy Blog, qui, au moment où ils voyaient des journalistes arriver, c'était pour eux des bouées de sauvetage, quoi. Qui s'accrochaient en disant, je suis pas l'image que je renvoie, j'ai envie de faire plein de trucs, donc aidez-moi à m'en sortir. Et c'est un peu ce que fait Malik dans le film, en disant, s'il te plaît, Fred, aide-moi, file-moi des trucs à faire, tu vas voir, je suis de bonne volonté, etc. Effectivement, ce duo comme ça... Amène forcément plein de situations drôles quoi, et décalées.
Je vous présente Samy qui a la gentillesse de nous faire visiter la Courneuve.
Elodie.
Samy.
Bon. Quand on a écrit le film, en fait, on a vraiment essayé d'avoir des personnages aussi bien dans le quartier. Je vous dis, on a Sadek, on a Bibiche, on a Mariama, on a Harry qui sont très différents. Et au niveau de la boîte, on s'est dit, pareil, il y a Sabrina qui est, elle, une ex-fille de banlieue qui est partie à Paris et qui ne veut plus entendre parler de la banlieue parce qu'elle a des mauvais souvenirs. Il y a Sidonie qui, elle, est hyper bienveillante, elle va à la fête de l'UMA, elle est hyper ouverte, etc. Il y a Gilou qui est un peu plus cash et qui, lui, se laisse pas faire non plus, mais qui est plutôt, lui, qui prend ça plutôt au second degré, plutôt à la rigolade. Il y a Mike qui, lui, est un mec plutôt cool, qui a pas spécialement peur de la banlieue, qui se dit juste que, voilà, c'est une aventure comme une autre et que ça va lui permettre de rencontrer d'autres gens. On a essayé d'avoir une représentativité qu'il y a aujourd'hui dans toutes les boîtes, quoi. C'est pour ça que on a essayé de ne pas être schématique, quoi, pas être justement caricatural. Moi, je trouve que la caricature, c'est quand on ne voit qu'un seul visage, en fait. Et là, entre Gilles, donc Fred Bartel, Sandra, Sidonie, Elodie, la jeune fille qui tombe amoureuse de Samy, Gilou, Mike, on a quand même des individus très différents, qui ont chacun un regard différent sur la banlieue, et qui vont tous charger de leur vécu et de leurs appréhensions, et qui vivent les choses différemment.
Samy, on y va ? Vous devez avoir au moins 4 nouvelles recrues dans la zone franche.
Ouais, j'ai besoin de monde, là. Mais non, pas pour une bagarre, pour du travail.
Un DUT informatique, institut technologique, master en engineering informatique. Qu'est-ce que vous faites chez McDo, je comprends pas.
Bah, c'est les seuls qui m'ont pris, en fait. J'ai envoyé des centaines de CV, mais à part les stages, j'ai rien trouvé.
Je sais pas d'où il vient cet argent.
Quand tu vas à la banque, toi, tu demandes d'où il vient le pognon ?
Non. Quand on est arrivé ici, on pensait que ce serait compliqué. Enfin, moi, je pensais que ce serait compliqué. Et finalement, c'est formidable.
Alors, la cohabitation, ça se passe bien ?
Oui. Fais juste attention à pas laisser traîner nos affaires, quoi.
C'était Mohamed Hamidi, le réalisateur de Jusqu'ici. Tout va bien et ça nous donne l'occasion, ce film qui se déroule en banlieue, de jouer un blind test spécial film de banlieue. Et il va y avoir du très très facile, la preuve.
Tais-toi, une bonne fois pour tout, je te dis merde. Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi.
Toi, tu connais quoi, toi?
Ah ouais, tes conneries, espèce d'imbécile.
Ouais, tu me traites pas.
Mais tu me parles pas comme ça, d'accord? Les connards qui ont tabassé Abdel, ils vont être condamnés. Tu peux me faire confiance?
Allez, tu rêves, là, allez.
Les autres, là-haut, ils sont là simplement pour protéger Abdel et sa famille. Putain. Chaque fois, tu ramènes ta merde, là. Espèce d'imbécile, va. Tu mélanges tout. Les flics qui sont là-haut sont là pour protéger Abdel et sa famille, c'est tout. La majorité des flics dans la rue sont pas là pour vous taper, ils sont là pour vous protéger.
Ah ouais, et qui nous protège de vous?
Voilà, donc ça a été trouvé, hein, Manu.
C'est la haine de Kassovitz.
Alors j'ai pris cet exemple hein, parce que ça part de là, la haine, c'est-à-dire l'opposition entre les flics et les jeunes de cité, puisque Mathieu Kassovitz disait à la sortie du film « Des armes, les flics en ont, et dans les cités, ils en ont. » Mais pour l'instant, les plus sages, ce sont les mecs des cités parce qu'ils ne s'en servent pas encore. Un peu plus de 2 millions d'entrées hein, quand même en France, donc un gros carton pour ce film. Deuxième extrait.
Mais les règles, c'est essentiel. Mais comme tu as une tête butée comme ça, tu veux rien apprendre, et ben t'arriveras jamais à rien dans ta vie. Allez, va t'asseoir.
Parce que toi, t'arrives à quoi dans ta vie, toi? T'arrives à quoi dans ta putain de vie, toi? Hein? Regarde ta gueule, regarde tes freins.
Bon, maintenant, tu vas chez le proviseur, j'en ai marre.
Eh, à tout casser, vas-y, tu sais quoi? Tu gagnes combien? 1500 euros?
1003.
T'enlèves 800 euros de loyer. T'enlèves 300 euros, là, toutes tes courses chez Leader Price, parce que Mskina, elle a pas l'argent pour aller à Carrefour. 100 euros! 100 euros, là, ton EDF GDF. 20 euros ton abonnement chez Free, avec tous tes voyages là, au l'inclusive lastminute.com en Turquie.
Tu dégages!
Il te reste quoi?
Tu dégages! Héro!
Alors ils vont encore aller comme un sapin.
Tu l'as pas trouvé parce que tu l'as pas vu.
Ben non, je l'ai pas vu.
C'est Divine, film de 2016 réalisé par Ouda Benyamina. Je crois que c'était le meilleur premier film au César de cette année-là. Et là, on écoutait Oulaya Amamra, qui est sa sœur, et qui a une soif de pouvoir et de réussite. Ça avait réuni seulement 321 000 spectateurs en France. Troisième extrait.
Mais qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Toi, tu viens, t'insultes comme ça, mais t'as rien à faire tes journées ou quoi?
Va chercher un autre mec.
Tu m'as pris pour une pute ou quoi?
Ouais, c'est ce que t'es.
Mais toi, t'es
qu'est-ce que tu vas piquer les queumets des gens là?
Mais c'est pas ton queumet, c'est mon
cœur,
d'accord?
T'es suicidaire, Miss! C'est plutôt toi qui es suicidaire en voulant le toucher.
Moi, je te mets un bonhomme
et je me prends pas un bonhomme, une pute, t'as compris? Je suis pas un bonhomme.
Moi, je suis une pute, moi!
C'est pas un bonhomme!
Avec tes copines, tu te la racontes!
Qu'est-ce qui t'arrive là? Tu me traites de pute? Je te dégomme ou quoi?
Je suis une première, sale, mais qu'est-ce qui t'arrive encore?
Ah, c'était pas facile de suivre ce film.
L'esquive de Kechiche.
Oui, film de 2003. Gros succès critique, mais pas vraiment public. Hein. 376 000 entrées en France. Voilà, on passe à un film avec quasiment 1,5
million. Il te ramène à plus tôt et c'est normal.
C'est bon, vas-y, arrête avec ça.
Mais non, toi fais ta petite vie pourrie si t'as envie, mais moi tu mets pas dans la merde, moi. Tu le ramènes pas à plus tôt.
Mais tout le monde s'en bat les couilles de Neuilly de
plus tôt. Mais toi fais ta vie de merde dans ta cité de merde, de toute façon t'es faite pour ça.
Attends, pour qui tu te prends là? Oui, parce que t'as une paire de pompes à 300 euros, tu crois que t'es arrivée?
Regarde comme t'es jalouse.
Moi, je suis jalouse. Ouais, ouais.
C'est quoi, t'as toujours été jalouse de moi, toi? Ouais. Parce que les gens, c'est moi qui kiffe. Max, c'est moi qui kiffe, c'est moi sa meuf. Parce que personne te regarde, toi.
Arrête avec tes mythos, Lila. T'es pas sa meuf. Tu sais très bien que t'es plus sa meuf.
T'aurais kiffé.
Mais j'en ai rien à foutre, juste tu passes pour une conne.
Ah ouais? Pourquoi? Parce que ce mec-là, il a de l'oseille, qui me regarde, moi.
Mais arrête, il t'a pécho comme ça, il s'en bat les couilles de toi, t'es une parmi un milliard, ah il s'en fout.
Mais il m'a dit qu'il m'aime, moi. Moi, il me l'a dit qu'il m'aime. Moi, il m'a dit qu'il m'aime. Moi, il m'aime, moi. Il m'aime.
Ça a été trouvé, Manu?
Tout ce qui brille.
Oui. Film de 2010 de Jérénil Nakache et de son compagnon, qui est, je pense encore, Hervé Mimran. Et j'ai choisi cet extrait parce qu'on entend Léla Bekti et elle a remporté le César du meilleur espoir féminin. Et pour une fois, ce César... Enfin, parfois, il a la valeur, ce César, mais parfois, ils choisissent des espoirs qui ne continuent pas leur carrière. Et là, en revanche, eh bien, ça a plutôt bien fonctionné pour Léla Bekti. Dernier extrait de ce blind test spécial banlieue.
Qu'est-ce qu'il y a encore?
Eh ben, il y a que j'ai trois foulards.
Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, que vous ayez trois foulards? Ou un béret basque ou deux passe-montagne?
Ah ben non, mais vous comprenez pas bien, là. J'ai trois foulards islamiques.
Quoi?
Oui, trois filles, une de quatrième, deux de troisième. Elles sont arrivées ce matin avec des foulards, elles veulent pas les enlever, je les ai mis dans le bureau, qu'est-ce qu'on fait?
Il me manquait les foulards. Les foulards et les barbus. Je le savais.
Je les attendais.
J'avais déjà des voleurs.
des vandales, des racketteurs, des dealers, des caractériels, des agités.
Il m'a manqué les foulards et les barbus. Eh ben ça y est, je les ai.
Oui, non, mais calmez-vous, monsieur Gauthier.
Ta gueule!
Alors, un prof de province obligé de se coltiner la quatrième techno en banlieue parisienne, c'est une comédie, hein, évidemment. Ah,
ça rappelle une comédie avec de Lozier, mais c'est pas
oui,
celle-là.
Mais si.
C'est celle-là,
oui,
c'est avec Depardieu.
Avec Depardieu.
D'accord.
Ouais, le plus beau métier
le plus
du
beau
monde.
Métier du monde, oui.
Voilà.
Oui.
Et si j'ai choisi ça, c'est parce que bon, ben voilà, c'est déjà une comédie, donc c'est un genre un peu différent de tout ce qu'on a entendu auparavant. Mais c'est que ça fait beaucoup plus d'entrées finalement que La Haine. Il y a 2,2 millions entrées.
Ce sont des films beaucoup plus chers aussi, je pense. Enfin, pour le plus beau
pour
métier
le cachet,
du monde.
Pour le cachet. On en a fini avec ce blind test et avec cette émission.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
On se retrouve la semaine prochaine, alors sans interview, mais encore avec l'actu cinéma du début mars. À la semaine prochaine.